vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 46. Alors, tout l'or, t'adore ? Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission, vous l'avez bien connu, nous recevons une dame que tous les voyageurs sur le Rhin adorent. Une dame qui assassine des gens bizarres les soirs de grand froid derrière les bains municipaux à Strasbourg. Une dame qui aime le latin, le grec ancien et les petits jeunes lieutenants de la SRPJ.
Alors dites-moi, cher Dominique Gouillard, vous venez de publier un roman policier alsacien, L'or du Rhin. Comment vous est venue l'idée de ce titre ?
Ah, cher Ambroise Perrin, la première question qui est un petit peu une question pour faire la publicité de votre livre. Aux éditions bien connues, dites-moi, vous le savez par cœur, le nom de cette édition, de cette maison d'édition ?
Bah, les Enquêtes Rhénanes, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà.
Et Pierre Marchand.
Voilà, alors Le Verger éditeur qui maintenant vient de passer sous la houlette de La Nuée Bleue.
De La Nuée Bleue, l'universel. En anglais, on dirait « overwhelming, nuée bleue ». Alors, je vais vous dire, Ambroise, « L'or du Rhin », c'était ce titre de mon dernier roman. C'était lors d'une promenade au creux de terrain. J'écoutais Gainsbourg et je me suis dit « ça serait pas mal, au creux de terrain ». Et puis, je me suis dit... Comme ça, en me promenant au bord du Rhin, j'imaginais Jules César en train de construire les deux fameux ponts au nord de Gamsheim, enfin on ne sait pas très bien où, pour aller envahir les barbares. Et après, Jules César a détruit ces ponts pour que les barbares ne puissent plus revenir dans la plaine d'Alsace. Et je me suis dit, ça pourrait être l'heure du Rhin. Et puis l'heure du Rhin, il y a beaucoup de romans qui commencent par heure. Je me suis dit, l'heure, H-E-U-R. Vous savez, la bonne fortune, comme on dit, heureux, avoir l'heure de plaire. Parfois, c'est mou, parfois c'est dur. L'heure dure un. L'heure dure un. C'est une interjection familière. Hein ? Qu'est-ce que tu as dit, Nette ? Voilà. Alors non, mais en fait, c'est mon ami éditeur qui est un amoureux de la Lorelai et qui a choisi l'or, O-R, du Rhin, R-H-I-N. Et encore que cela fasse penser au trésor enfui par tous ceux qui ont voulu traverser le Rhin. Alors, il y a Barberousse, il y a Napoléon, il y a Victor Hugo. Puis, il y a eu les hordes nazies de nos amis allemands qui ont peut-être fait couler dans le Rhin une barque avec plein de trésors, dans une caisse pleine de lingots d'or, mais protégée par des grenades amphibies. Enfin, vous voyez, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce titre de film ou de livre. Enfin, je dis film parce que moi, quand j'écris, c'est comme du cinéma. C'est
oui,
un film.
Mais en fait, il y a une chose que vous oubliez de rappeler, c'est que vous aviez hésité aussi sur un autre titre. L'or du rien, parce que il me semble que dans votre roman, je l'ai très bien lu. Il me semble que le thème de l'argent et de l'or maléfique, parce qu'il y a vraiment de l'or dans
mais
votre roman.
Il y aurait eu une confusion avec Édith Piaf. Rien de rien, je ne regrette rien.
Voilà.
Ce que bon, c'est un petit peu éculé comme. Alors que ce que j'aime bien dans le rien, c'est il n'y a plus rien. Et ce rien, je vous le donne.
Ah oui, tout à fait.
Léo Ferré.
Voilà.
Voilà. Donc, c'était pas mal. Mais finalement, il fallait un titre beaucoup plus commercial. Voilà. Donc, soyons pragmatiques. L'or du Rhin, ça fait... D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir une dizaine de bouquins qui ont le même titre. Non, il y a un monsieur Wagner qui a fait truc, un opéra, là. C'est de la musique. Et voilà. Donc, l'or du Rhin. Donc, on s'est dit que ça ferait vendre. Voilà.
Ah, mais c'était tout à fait l'idée de l'éditeur, me semble-t-il.
Oui. Oui, je sais que vous avez discuté avec lui, Ambroise, mais l'éditeur était Bon, il avait besoin de remplir ses caisses et il s'est dit, la petite Dominique, là, elle écrit bien, je vais lui demander un truc qui se vend bien. Voilà.
Mais vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que lorsqu'un auteur choisit un titre, évidemment en accord avec son éditeur, ce titre n'est pas un résumé, mais c'est un appel. Bon, alors, ce n'est pas uniquement un appel commercial, mais c'est quelque chose qui dit, qui fait appel à l'imagination du lecteur qui va passer devant le livre.
Oui, c'est une accroche.
Exactement.
Hein. On sait que Proust a hésité beaucoup hein, pour arriver à La recherche du temps perdu. Enfin, je manque beaucoup de modestie en citant... Voilà. Ou alors Pérec, avec La disparition, il a mis beaucoup de temps à le trouver et c'est génial comme titre.
Hein, oui, mais je suis tout à fait d'accord.
Hein, voilà, la disparition de soi-même, la disparition de son enfance, la disparition de ses illusions et la disparition de la voyelle E, qui peuple tellement son nom. Donc effectivement, un titre, mais même les bons titres sont souvent des titres énigmatiques.
Oui, oui, tout à fait. Et puisque vous parlez de Proust, j'aurais une question à vous poser.
Oui.
Bon, vous savez que Proust a écrit un certain nombre de choses et pas seulement La recherche du temps perdu.
Les plaisirs et les jours.
Oui, oui, mais pas, c'est pas au plaisir.
Qu'on lit à 19 ans, c'est, comment dire, draguer mode d'emploi, si je peux me permettre.
Non, mais
donc,
je peux...
tous les jeunes gens qui vous embêtaient à l'école avec La recherche du temps perdu en disant oui, je le relirai, c'est génial, tout le monde me dit que c'est génial, donc je ne peux pas dire que je suis en train de me faire CHIER. Lisez, parce que ça existe dans une toute petite collection de poches qui s'appelle Les Mille et Une Nuits, Les Plaisirs et les Jours. Mais c'est génial, vous ne le faites pas lire à votre copine, ou mademoiselle la copine, ne le faites pas lire à votre copain, et puis vous saurez comment le rendre jaloux, et comme ça vous l'aurez pour vous.
Non mais le livre auquel je pense, c'est le contre Sainte-Beuve,
Oui.
Voilà, qui est un ouvrage de critique littéraire. Et le critique Sainte-Beuve avait émis la thèse suivante, c'est-à-dire que pour connaître une œuvre, il fallait également connaître la vie de l'auteur et qu'on pouvait expliquer l'œuvre par la vie et par la psychologie. Bon, inversement, Proust prend absolument le contre-pied en expliquant qu'à son avis, ben, il n'y a que l'œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ?
Oui, bah écoutez, moi j'ai les pieds dans l'eau du Rhin, hein, dans des endroits où il y a des méandres un petit peu loin, des barrages hydroélectriques qui régulent le fleuve, et je suis beaucoup plus pragmatique, mais oui, je suis ici à la radio, à votre invitation, et effectivement, je vais vous répondre oui, un petit peu par... complaisance, voilà. Hein, voilà.
Bon, mais avant de parler de votre carrière, puisque c'est un peu l'heure de se mettre à table, quel est votre plat préféré, finalement?
Voilà, une question pragmatique, hein, voilà, au lieu
exactement.
De parler de Sainte-Beuve. Eh bien, alors, j'espère que mon mari n'écoute pas la radio en ce moment, mais je lui ai dit que je venais à la radio, donc à mon avis, il va écouter. Moi, mon plat préféré, c'est quand mon mari est absent. Ah oui. Donc, il part, en hiver, il part avec notre fille, qui est une très bonne skieuse. Ils vont faire du ski tous les deux. Et moi, le ski, la neige, les trucs, les chaussettes mouillées, le ski, très peu pour moi. Donc, moi, je reste à la maison. Je suis une femme fidèle, hein, comme au
ah
cinéma.
Oui, tout à fait.
Comme au cinéma, oui. Mais je reste à la maison et je me fais tout ce qui est interdit. Et c'est quoi ce qui est interdit pour moi? C'est une assiette de grosse choucroute bien grasse avec deux knacks roses qui ressemblent à des cadavres et je m'enfile une bouteille de Sylvaner devant la télé et je regarde quoi? Des matchs de foot! Et alors je bois du Sylvaner. Bon, bien sûr, ça pourrait être du Gewürz, parce que c'est quand même un petit peu plus noble, ou du Muscat. Non, je bois du Sylvaner, parce qu'avec le réchauffement climatique, les vignes sont un petit peu meilleures. Mais surtout, et chers auditeurs, je vous demande de bien écouter, je bois du Sylvaner du Bas-Rhin, pas du Haut-Rhin, et notamment de la cave de Clébourg, publicité gratuite. Mais c'est un vin qui est absolument formidable avec les matchs de foot. Oui, oui.
Bon, alors, je pense que les personnes qui nous écoutent ont compris que nous avons évidemment arrosé...
Ah oui, on a mangé avant de venir
voilà,
en studio, bien
que
sûr.
Là, il y a beaucoup de choses un petit peu... qui ne sont pas forcément tout à fait vraies, qui ont été racontées.
Ah non, 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 non. Ah non, non, je vous assure que c'est vrai, je fais ça. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon bouquin. Dans le premier chapitre de L'or du Rhin, je raconte cela.
Mais c'est mon c'est votre personnage qui...
Oui, 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 oui.
Il ne faut pas s'imaginer que les personnages sont la transposition de l'auteur.
Si, mais alors on a cité Proust, Sainte-Beuve, on a oublié de citer Flaubert. Tout ce qu'on invente est vrai. Absolument, et tout. Et je vais vous dire pourquoi j'adore le foot. Bon, je m'appelle Dominique. Hein, Dominique Guillard. Dominique, tu viens jouer au foot avec nous. Et pourquoi Dominique? Dominique, c'est un nom de garçon, enfin de fille aussi, hein, Dominique. Je crois que dans le club des cinq, il y a une des filles qui s'appelle
Claude.
Dominique.
Non.
Il y a Claude qui est garçon.
Il n'y a pas de Dominique.
Il y a Dagobert le chien, il y a Michel, il y a Annie, et il n'y avait pas Dominique. Non,
c'est Claude.
C'est Claude qui est androgyno, machin.
Elle
est les deux.
Elle est grande. C'est une grande fille sportive.
Comme je m'appelais Dominique, je pouvais jouer au foot avec les garçons.
Oui, bon.
Ah oui. Mais c'est bien. Non. Oui, c'est une bonne raison. Oui.
Bon, nous allons un peu avancer. Et est-ce que vous êtes une vraie Alsacienne? Où est-ce que vous avez passé votre enfance? Parce qu'il y a, les Alsaciens de souche, et puis il y a les Alsaciens qui sont de cœur, on dira.
Ah ben non, moi je suis une Alsacienne de branche. Parce que les souches, hein, c'est les racines profondes et tout... Mais moi, je suis de branche parce que, en fait, ma famille, c'est un petit peu compliqué, c'est très épars. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Bon, il y a des chansons, il y a des références comme ça, on ne sait pas, ton père, ta mère et tout. Donc, moi, j'ai eu une enfance, cultivée. On m'a enfoncé plein de choses dans la tête parce qu'on voulait le bien pour ses enfants. C'était quand même une période un peu... La guerre n'était plus si loin et tout. Donc, on se disait il fallait réussir, il fallait acheter une 2 chevaux ou une 4L. Il fallait être bonne à l'école, hein, quand même.
Oui, oui.
Et puis, manger de la viande le plus souvent possible et manger le blanc du jambon. Parce que maintenant, les enfants, ils enlèvent le blanc, ils mangent que le rose, parce que bon, le gras. Mais non, à l'époque, mangeait le blanc parce que c'était ça qui allait donner des forces.
Non, mais pas seulement. Je me rappelle très bien ce que vous dites. Hein. À cette époque-là, lorsqu'on allait chez les gens et qu'on mangeait, par exemple, une côte de porc, le fait de ne pas manger le gras était considéré comme une impolitesse.
Hein. Absolument.
C'est incroyable à quel point les règles même de politesse ont changé.
Et ma grand-mère, je ne sais pas, j'ai déjà raconté cette histoire parce que je l'ai entendue à la radio. Je crois que c'est Ambroise Perrin, c'est vous qui me l'avez raconté un jour. Elle prenait une bouteille de schnapps quand on partait à l'école. Hein, on avait, je ne sais pas, 5-6 ans, dans la neige, tout seul. Maman ne nous a jamais accompagnés à l'école. On suivait les grands. Hein, c'était comme ça. Il n'y avait pas de voiture. Donc, hein. Et elle mettait sur une gaze du schnapps et elle passait sous la finette, sous le maillot de corps. Et elle nous badigeonnait tout le ventre et tous les poumons de schnapps.
Non, mais ça, c'est une histoire d'Ambroise Perrin, pas de Dominique Guillard.
Mais écoutez, je ne me souviens plus, donc je l'ai lu dans un de vos livres, Ambroise. Ben, voilà. Et donc, du coup, c'était contre la tuberculose, c'était quand même une grosse hantise, voilà, et tout.
Voilà.
Bon, alors, pour répondre à votre question, Alors, j'ai une famille qui est quand même... très dans la musique et très dans les fantaisies. Bon, moi, j'étais prof à Fustel de Coulanges, j'ai fait les lettres classiques, la rue d'Ulm, s'il vous plaît. Mais mon grand-père était chef d'orchestre et ma mère connaissait Charles Munch.
Oui, très bien.
Elle
connaissait vraiment.
Parce que je sais, Ambroise, que vous avez écrit une biographie de Charles Munch il y a une vingtaine, une trentaine d'années. J'ai trouvé ça et j'ai vu justement que Charles Munch citait ma maman. Hein, et donc, c'est comme ça que... Oui. Et alors, mon grand-père, lui, c'était un grand violoncelliste.
Non, c'était... Je crois que c'était... Si, c'était votre arrière-grand-père.
Ou c'était mon arrière-grand-père. Vous avez lu aussi ma biographie. Mais
non,
moi,
non,
je joue du violon.
Le problème, c'est qu'il y a... lorsqu'il y a des écarts dans les générations, on se trompe un petit peu, quoi.
C'est ça. Mais bon, moi, je suis à la radio pour vous raconter mon histoire, donc je peux un petit peu broder. Mais en tout cas, dans ma famille, c'était, il y avait plein de gens qui m'impressionnaient beaucoup, donc j'étais obligé de réussir. Hein. Bon, on était quand même 12 enfants dans la famille et tout, donc les frères et sœurs, tout le monde en était poussé et tout. Parce que, par exemple, le témoignoire de mariage de mon grand-père, c'était Gustave Eiffel. Donc... Oui. Le grand truc, une fois par an, on allait voir la Tour Eiffel à Paris, toute la famille, toute la tribu. C'était absolument formidable. Et j'ai appris que mon grand-père, il avait été au lycée Condorcet avec Marcel Proust. Hein? Et c'est vrai. Donc, vous voyez, je suis vraiment une enfant à qui on a fait faire plein d'exercices, plein de choses pour réussir. Et alors, c'était pas papa taxi ou maman taxi qui nous amenait. On allait tout seul. Par exemple, moi, j'allais faire, je prenais mes cours de violon. Hein, et c'était obligé. Donc, c'était. Et très vite, je vais vous demander, Ambroise, quel est votre numéro solo préféré au violon? Une pièce de violoncelle.
De violon, mais de toute façon, il y a des morceaux que j'aime beaucoup, qui ne sont pas trop difficiles à jouer.
Parce que vous jouez aussi du violon, Ambroise.
Mais oui, bien sûr. Et qui peuvent être joués d'ailleurs pour violon ou violoncelle, ce sont les sonates de Bach.
Ah
et
oui.
Ça,
Oui, non, alors moi je vais vous dire
ça,
ce que...
La troisième, par exemple, elle est magnifique.
Oui. Voilà. Oui, mais moi, Dominique Gouillard, le morceau que je préfère jouer, parce qu'il faut le jouer très vite pour épater les copains, je vais vous dire, c'est le tambourin chinois de Fritz Kreisler.
Et alors, non, je crois que là, vous inversez un peu les choses, parce que moi, j'ai l'impression que moi, j'ai un bon niveau en violon, et que vous... vous jouez parce que j'ai entendu dire, vous êtes quand même seulement une musicienne amateur qui gratte un peu de guitare, de violon et de piano.
Vous m'invitez sur Radio J, moi, Dominique Gouillard, j'ai le droit de me vanter un petit peu.
Oui, mais là, je trouve que vous parfois
alors,
vous jouez
peut-être mieux.
Un peu beaucoup là.
Mais c'est pas grave. Alors, moi, je vous propose, en sortant, on va chez moi ou chez vous, on prend nos violons et on joue le concerto en ré majeur, de Bach à deux violons. Et vous faites la deuxième voix, qui est la plus difficile.
Oui, c'est tout à fait exact.
Hein? Voilà. Donc, on passe de l'or du Rhin au violon.
Voilà, mais je ne sais pas si ce que vous aimez dans Bach, ce ne sont pas justement ces arpèges qu'il fait sans arrêt. Ça, c'est lorsqu'on joue du violon, c'est extrêmement agréable, pour l'esprit. Et puis...
C'est bien, oui. Le plus désagréable dans le violon, quand j'avais 7 ou 8 ans, c'était les parents qui me disaient « Ah, il y a le tonton Eiffel qui est là, allez, joue-nous un petit morceau. » Mais j'avais horreur de ça, de faire ça, jouer du violon à Noël et tout. Mais ça, je vais le mettre dans un autre bouquin.
Bon, alors dites-moi, Dominique Gouillard, est-ce que, en dehors des polars, vous pourriez écrire des bouquins sur la mythologie ou... autre chose, et pourquoi est-ce que vous écrivez des polars, et est-ce que le polar pour vous c'est un genre majeur, parce que vous avez enseigné quand même un bon niveau la littérature grecque, latine, là ça n'a rien à voir, et le polar c'est un genre beaucoup plus populaire.
Oui, ou même très méprisé et tout, voilà. Bon, je ne vais pas citer les trois titres des polars que j'ai déjà fait, mais je parie, Ambroise, que vous connaissez les titres.
Oui, donc le dernier, c'est l'or du Rhin. Avant, c'est... le monstre vert de Strasbourg, qui voilà. est effectivement un titre très bien choisi pour.
Parce ça parlait du rayon vert de la cathédrale. Voilà. Hein, vous avez compris que c'est.
Oui, bon, ça c'est oui. Jacques Fortin.
Et alors, et le premier,
et le premier, c'est Échec à la Reine.
Voilà, voilà. Alors, la Reine, bien sûr, c'est la bouchée. La bouchée à la reine avec du riz de veau dedans, hein, bien sûr. Non, non, mais pour que les auditeurs retrouvent...
Je crois qu'aujourd'hui, vous avez...
Alors, je vais vous dire, le polar, ça permet effectivement de s'évader, hein, de faire de... Moi, Ambroise Perrin, je pourrais vous appeler Sherlock, hein, maintenant, parce que vous avez bien cherché dans ma vie. Mais écrire un polar, c'est une entreprise sérieuse. Il faut, bien sûr, des qualités littéraires. C'est pas seulement raconter l'histoire. De toute façon, l'histoire, on sait, il est venu... Il s'est battu et à la fin, l'assassin, c'est le commissaire qui fait l'enquête. Enfin, je schématise un peu Conan Doyle et Agatha Christie. Mais dans un polar, on peut, mais mine de rien, il faut que ce soit très subtil, défendre des idées. On peut aller, alors là, vous n'allez pas aimer, à l'encontre de la désinformation. Hein, dire des choses comme ça. Alors que je sais, Ambroise, que vous avez un blog qui s'appelle AFP, Ambroise Fiction Presse, et qui fait l'apologie des fake news. Donc c'est quand même assez bizarre. Et puis surtout, moi ce que j'aime dans le polar, c'est que je peux assassiner des gens. Alors mes amis et mes ennemis peuvent se reconnaître parfois grâce à une petite astuce. Je dis, il portait une violette. Et donc là, il dit, oulala, c'est de moi qu'elle parle. Et donc, comme ça, les polars, c'est un exercice. Mais ça doit être plaisant, ça doit être amusant à lire. Et ce n'est pas une récréation entre deux livres sérieux, le polar. Le polar, alors je ne dis pas qu'entre deux polars, il faut lire Proust pour se détendre, mais... Le polar, c'est quand même un exercice. Il y a des très grands auteurs qui ont fait des polars. Voilà, donc,
voilà, mais vous êtes d'accord pour dire que le polar, c'est vraiment le grand genre actuel.
Oui, oui, ça revient. Et puis à Strasbourg, on a des librairies spécialisées dans le polar, des librairies qui font tache parfois, et même noire souvent. Et donc, on peut aller acheter des polars et puis... alors moi, Dominique, j'ai une admiration pour un autre Alsacien qui s'appelle Paul Alter, qui est un écrivain où seule la forme compte. Et je crois qu'il était postier au départ et il s'est mis à écrire des polars en lieu clos. Mmh. Donc tout est fermé, il y a un meurtre et l'assassin n'est plus là. Ah, voilà. Donc, et à chaque fois, il raconte la même chose et chaque fois, c'est intéressant.
Mmh. Voilà. Et alors, Dominique Gouillard, vous êtes sûrement sur un autre livre. Et quel va être le thème de votre prochain livre qui, si j'ai bien compris, pourrait paraître au printemps prochain?
Oui. Alors là, bien sûr, on a toujours envie d'être, disons, un petit peu sibyllin pour ne pas dévoiler l'histoire. Mais quand même, je vais vous dire. C'est... l'histoire d'un vol industriel. Ah oui, oui, oui. C'est une histoire de... C'est un truc terrible qui s'est passé à Strasbourg. Quelqu'un, par espionnage et par des moyens assez peu honorables, a volé la recette de la tarte au fromage de la pâtisserie-boulangerie géniale rue Gailler à Strasbourg. Quelqu'un s'est permis de voler cette recette qui est quand même, depuis trois générations, les gens font la queue depuis la place Golbery pour acheter cette tarte au fromage qui est spéciale. Et donc, des espions ont acheté une tarte, alors je pense qu'ils devaient être japonais ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas possible. Ils ont fait une analyse macrobiologique des cellules du fromage, de la structure de la vanille, et ils ont trouvé qu'il y avait une très légère goutte d'eau de rose dans la tarte au fromage. Alors les grands-mères qui écoutent la radio, maintenant vous pouvez le faire. Bon, vous rajoutez de la vanille, bien sûr, une gousse de vanille ou de la vanille artificielle, on ne voit pas la différence et ça coûte moins cher, hein, à la Coop Express, net. Mais une toute petite goutte d'eau de rose, on ne la remarque pas, il faut que ce soit très discret. Ah, ça donne quelque chose. Et puis alors, bien sûr, le plus important dans la tarte au fromage, et tout le roman est basé sur cette espèce de, d'antagonisme, d'oxymore. La tarte, elle doit être tendre et cruelle, réelle et surréelle, terrifiante et marrante. Elle doit être la croûte excellente. Le gâteau doit être beau comme tout. Gâteau, le fou. Voilà. Et ça, c'est le thème de mon bouquin. Je pense que ça s'appellera pas Pierrot le fou, mais Gâteau le fou. Enfin, il faut que je voie, comme on a dit au début de l'émission, ce qu'en pense l'éditeur. Voilà. Vous avez encore une question, Ambroise ?
Il y a une remarque, c'est que j'avais entendu parler de votre futur bouquin par justement un ami commun. Et il m'avait raconté quelque chose de complètement différent.
Ah, je sais. C'est...
Et notamment, il m'avait parlé de cigarettes, d'artistes. Enfin, mais à la limite, je pourrais vous suggérer de rajouter l'histoire de la tarte au fromage dans votre livre.
Ah ben, écoutez, pourquoi pas. Oui, je connais cet ami, c'est Pierre-Marc de Biasi, le grand spécialiste de Flaubert. Mais écoutez, imaginez-vous, alors je sais, Ambroise, que vous le connaissez depuis 30-40 ans.
Oui, et
que
oui, vous avez nous avons travaillé ensemble.
Oui, et bien moi, j'étais au lycée avec lui. Hein, mon grand-père était avec Proust, et moi, Dominique Gouillard, j'étais au lycée avec Pierre-Marc de Biasi.
Voilà, sauf que j'ai changé de nom entre-temps, donc...
Et il se souviendra peut-être plus de moi, effectivement. Mais en tout cas, c'est sur cette note délicieuse de la tarte au fromage et des romans policiers. Où... Alors, est-ce qu'on peut planter un couteau dans la tarte au fromage de la rue Gailler? Et est-ce que le couteau reste droit? Ou est-ce que la tarte est trop molle? Est-ce qu'elle penche?
Je dis, la rue Gailler n'est pas très loin de chez moi. J'ai déjà acheté des choses chez...
Oui.
Dans cette pâtisserie, boulangerie-pâtisserie. Mais la texture, je ne sais pas si elle peut s'adapter ou pas.
Voilà, mais la texture, c'est comme le style dans un roman.
Ah, tout à fait.
C'est la même chose. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette émission où l'on a confondu le roman policier et la tarte au fromage. Et nous allons nous quitter en écoutant le générique. C'était l'épisode numéro 46 de Vous l'avez bien connu. Alors, tout l'or. T'adore ? Aujourd'hui, nous avions comme invité Dominique Gouillard. Vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30, rediffusion le dimanche à midi. Et aujourd'hui, à la technique, c'était Lucas Bringoux. Et mon nom est Sherlock Ambroise Perrin. Fellows meet, like you and I. No connection.